Monster.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le magazine du week-end, c'est chaque samedi et chaque dimanche de l'été, 1h10 de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec nos invités jusqu'à 13h50. Il se définissait comme un sociologue engagé, menant un travail d'ingénierie démocratique. Il fut aussi député socialiste de Saône-et-Loire. Jean-Pierre Worms est mort cet été à l'âge de 85 ans. Il disait ceci à propos de la figure de l'élu local au tournant des années 60 et 70. L'image du notable est concrète, presque physique. La prestance qu'on lui accorde est celle de l'embonpoint, de l'emphase du geste, de la parole et de l'habit. Il est toujours en représentation et ce qu'on respecte chez lui, c'est l'image qu'il donne de la collectivité qu'il représente. Chez lui, être représentatif et être en représentation se confondent étroitement. L'élu local, ce personnage que l'on respecte et sur qui l'on compte pour relayer des messages à Paris. Mais quand il ne les relaye pas ou que le message qu'il transmet est contraire à nos propres convictions, alors on lui retire la confiance donnée. C'est ainsi en tout cas que se justifient quand ils le font celles et ceux qui ont détérioré les permanences d'élus de la République En Marche, ayant voté pour le CETA, le traité de libre-échange entre l'Union Européenne et le Canada. Hier encore à Lyon, la semaine dernière en Haute-Saône, dans le Jura, la Creuse, les Pyrénées-Orientales, le Lot-et-Garonne et en Gironde.
Aux alentours du midi, une trentaine de personnes ont pris la direction de la permanence et avec des marteaux, avec différents outils et instruments, ils ont brisé toutes les vitrines. Ensuite, un d'eux a sorti un bidon d'essence visiblement préparé pour l'occasion et a déversé de l'essence sur l'ensemble de la permanence, craquant une allumette pour l'autre d'entre eux pour y mettre le feu.
Il ne faut pas de violence. Maintenant, les gens que vous décrivez...
Mais vous dites la comprendre.
Même s'ils ont fait des choses que je condamne, ce ne sont pas des délinquants. Pour quelle raison ces gens se sentent en danger dans leur profession? Faut l'entendre, ça. Faut pas leur répondre, circuler, y a rien à voir.
Pourquoi cette permanence? Bah, parce qu'en fait, c'est la députée qui est la plus proche de chez nous, donc, c'est la députée de la circonscription. Et après, faut savoir que, bah, elle a voté, pour cet accord. Donc aujourd'hui, bah, c'était logique que les choses soient visées, quoi.
On nous dit c'est symbolique, on attaque le symbole. Non, quand on traite quelqu'un de traître, on n'attaque pas le symbole, on attaque la personne, on n'insulte pas le député ou la fonction.
Une quinzaine de parpaings est apposée. Un t-shirt de la FDSEA laissé dessus.
Ils ne sont pas capables de venir rencontrer le premier employeur de la région Occitanie, qui est l'agriculture. Et aujourd'hui, les agriculteurs, ils en ont marre de leur comportement. On cible tous les députés qui ont voté les accords dans tous les départements de France.
Voilà pourquoi les députés ont voté. Voilà. Donc c'est ce que bientôt auront les Français dans l'assiette. Voilà, de la merde. Ça peut être le simple homme, de la merde.
Les voix tour à tour des députés Romain Gros à Perpignan, Jean-Baptiste Moreau dans la Creuse, d'Alexis Corbière de la France Insoumise et des agriculteurs Philippe Carlier, Luc Mesbah et Jean-François Lamassé. Alors aime-t-on détester nos députés? Avant d'accueillir nos invités, le politologue Luc Rouban et l'historien Christophe Bellon, nous sommes en ligne avec la députée La République En Marche, Barbara Bessot-Ballot. Bonjour madame.
Bonjour,
vous êtes députée de la première circonscription de Saône-et-Loire à Vesoul et vous êtes de ces élus qui ont vu leur permanence non pas saccagée mais murée. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'était le jeudi 25 juillet aux alentours de 22h.
Je me permets un petit rectificatif, c'est pas Saône-et-Loire, c'est Haute-Saône.
Oh pardon, Haute-Saône, c'est monsieur Worms que j'ai cité en introduction qui était de la Haute-Saône, de Saône-et-Loire. Et, veuillez m'excuser, Vesoul, Haute-Saône bien sûr. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 25 juillet?
Le 25 juillet, donc à 22h30, certains agriculteurs sont venus pour faire un mur devant la permanence. Alors bon, pour moi, il y a toute une symbolique là autour, hein, un mur devant la permanence, un endroit public où on peut discuter et on vient mettre un mur. C'est toute une symbolique, effectivement, sur lesquelles on peut se poser des questions derrière.
Parce que l'acte était signé, il y avait les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles, qui est la FNSEA locale, les producteurs de lait, les jeunes agriculteurs de Saône-et-Loire, qui vous reprochaient tous votre vote 2 jours plus tôt en faveur du CETA, du traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Est-ce que vous aviez eu l'occasion d'en parler avec eux avant ?
Nous avons eu l'occasion d'en parler le 5 juillet. Quelques jours auparavant, un appel téléphonique. On souhaite vous rencontrer, et on a l'habitude d'ailleurs de se rencontrer, on souhaite vous rencontrer concernant le Mercosur. Dans les 72 heures, on trouve une plage horaire qui correspond ensemble et il y a autour de la table représentants des jeunes agriculteurs ainsi que de la FDSEA et un journaliste. Et on parle uniquement du Mercosur, qui, selon les accords d'ailleurs, ont des enjeux bien différents, et même c'est là où c'est la différence, par rapport au CETA. Et c'est même moi à la fin qui aborde le sujet du CETA, ils me font remarquer que c'est pas du tout le sujet du jour, et on échange tout de même sur le CETA, et on est tout à fait d'accord, on part tout à fait en parfait accord sur les différences, en tout cas, et sur les enjeux néfastes que peuvent apporter le Mercosur, qui sont complètement différents par rapport au CETA, où c'est plutôt nos exportations d'ailleurs qui sont concernées.
Donc c'est vrai qu'on fait pas une émission sur le CETA, oui, mais c'était important de voilà, c'était important de rappeler ceci. Par ailleurs, les agriculteurs de France entière, depuis des semaines maintenant, se lèvent contre le CETA pour dire combien ce sera pour eux quelque chose de très défavorable, ce traité de libre-échange avec le Canada. Vous en êtes consciente, vous les entendez, vous êtes députée, vous êtes élue. Pendant votre campagne, vous allez beaucoup voir les agriculteurs d'ailleurs, notamment dans l'entre-deux-tours. Vous allez leur dire votre conviction que les agriculteurs doivent vivre de leur production. Et deux jours plus tard, après cette rencontre que vous avez avec eux, vous votez pour le CETA. Certes, les enjeux sont différents de ceux du Mercosur, mais au nom de qui et qui représentez-vous quand vous, en tant que député, vous choisissez de voter pour ? Puisque vous savez que pour les agriculteurs, c'est néfaste et vous êtes de ceux qui veulent les protéger. En tout cas, dans vos interventions à l'Assemblée nationale, c'est manifeste.
Alors, c'est vous pour le moment qui dites que c'est néfaste pour les agriculteurs parce que je ne le pense pas. Justement, je ne le pense pas. Et lorsque je suis allée à la rencontre des transformateurs, entre autres des coopératives les plus importantes du coin, que j'ai encore vu d'ailleurs hier matin, et ils sont tout à fait d'accord que c'est favorable à l'agriculture, entre autres pour le lait, hein, principalement, puisque c'est pour le fromage. Et si on élève au-delà de ma circonscription haute-saônoise, pour le vin aussi, et pour pas mal de denrées issues du monde agricole. Donc, quand vous dites que c'est néfaste, déjà là, il y a une erreur.
Donc, vous avez, vous, une conviction ? Voilà, vous avez la conviction que ce sera protecteur pour les agriculteurs de votre département ?
En ce qui concerne le CETA, oui.
Donc, quand vous votez pour, en faveur de ce traité, vous vous sentez autant représentante du peuple que relais de la majorité présidentielle, ou plus l'un que l'autre ?
Écoutez, la représentation présidentielle, il n'y avait pas dans notre programme électoral au départ, il n'y avait pas écrit qu'on allait voter pour le CETA et qu'il fallait se positionner pour. Donc à partir de là où moi c'était pas une promesse électorale que j'ai fait à mes électeurs, je regarde le dossier avec pragmatisme et effectivement je consulte les personnes et encore une fois je regarde le dossier en me disant est-ce que on est bien dans l'intérêt général ou pas. Donc moi j'ai plus l'impression d'avoir représenté l'agriculture française et d'ailleurs le ministre de l'Agriculture le dit aussi.
Alors Barbara Bessot-Ballot, encore une fois, je vous ramène, et c'est moi qui vous avais emmené sur le sujet voilà. Du CETA, mais ça mériterait une émission entière, mais sur la question plus politique de la représentation, un mot peut-être sur votre parcours. Est-ce que vous aviez fait de la politique avant de vous lancer dans les législatives en 2017 sous la bannière de La République En Marche ?
Alors, je n'ai jamais fait de la politique telle que vous l'entendez, telle qu'on l'entend, on peut l'entendre aujourd'hui. Mais j'ai toujours fait la politique. C'est-à-dire que faire la politique, pour moi, c'est quand on est président d'association, quand on fait au quotidien des choses pour dans son village, dans sa commune.
Quel genre d'association en ce qui vous concerne ?
Oui.
Quel genre d'association en ce qui vous concerne ?
Oh ben il y a eu aussi bien des associations telles que le Foyer des Jeunes. Je suis rentrée par ce biais-là. C'était des associations sportives pour les jeunes essentiellement. Et puis, associations aussi de commerçants et artisans de mon canton.
Voilà, mais pas de mandat électif, que ce soit en tant que maire. Mais vous avez l'impression de bien connaître votre terrain, votre territoire, comme on dit aujourd'hui. Est-ce que vous allez persévérer dans votre mandat de député aujourd'hui? Est-ce que vous, Barbara Bessot-Ballot, est-ce que vous souhaitez continuer malgré ce qui vous est arrivé le 25 juillet?
Il faut avoir le respect du vote. Et s'arrêter aujourd'hui, ça voudrait dire que je ne respecte pas ceux qui ont voté pour que je sois élue aux dernières élections. Le pire serait sans doute d'abandonner. Donc il faut avoir le courage nécessaire pour aller au bout de ce mandat. Bien entendu qu'il y a des frontières qu'il faudra peut-être pas franchir, c'est certain. Mais il faut avoir ce courage-là et on nous a donné un mandat, il faut aller au bout de cette mission-là.
Merci beaucoup Barbara Bessot-Ballot d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes députée La République En Marche de la première circonscription de Haute-Saône, donc à Vesoul. Merci à vous. Et pour poursuivre la discussion jusqu'à tout à l'heure, nous sommes avec Luc Rouban. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue et directeur de recherche au CNRS et nous sommes également par téléphone avec Christophe Bellon. Bonjour. Historien du monde politique et parlementaire, vous êtes enseignant-chercheur à Sciences Po Paris et à l'Université catholique de Lille. Alors, c'est pas la première fois depuis le début de leur mandat que les parlementaires La République En Marche sont visés par des insultes ou des dégradations de leur permanence, déjà entre décembre et janvier, en plein mouvement des Gilets jaunes. Une cinquantaine d'entre eux avaient été visés par des lettres d'insultes, des invectives, des permanences détériorées. Est-ce que, comme on l'a entendu au tout début de cette émission, vous estimez que ce sont des attaques personnelles? Ou est-ce que vous diriez, je me tourne d'abord vers vous Luc Rouban, que c'est la République qui est visée? On l'entend notamment de la part du président du groupe La République En Marche et député de Paris Gilles Legendre. Est-ce que c'est la République qui est visée? Est-ce qu'on va jusque-là?
Je ne pense pas, je dirais que c'est plutôt le mécanisme fondamental de la démocratie représentative, dans la mesure où on considère que l'élu doit être porteur d'un message très précis et d'un mandat impératif. Et là, on quitte complètement la logique des institutions de la Ve République, dont la Constitution, d'ailleurs, très, très explicitement dispose que tout mandat impératif est nul. Donc on assiste quand même à une évolution aujourd'hui du rapport aux politiques et aux élus, et notamment aux députés, qui fait que progressivement, on voit se développer des pratiques de rapport aux politiques, de transformation de ce rapport, qui font que, dans le fond, on est face à des électorats de plus en plus exaspérés, si vous voulez, parce que dans le fond, bien leurs intérêts particuliers, qui peuvent être tout à fait légitimes, là c'est tout à fait le cas des éleveurs face au CETA, ne sont pas clairement retransmis ou ne sont pas vraiment pris en compte. Et là, d'où, ensuite, la demande de démocratie directe qu'on a vu fleurir lors des Gilets jaunes, des manifestations et même lors du grand débat national.
Christophe Bellon, même question. Est-ce que vous reprenez à votre compte cette notion d'anti-parlementarisme que l'on a entendu quand il s'agit de commenter les derniers événements et les saccages ou le vandalisme de certaines permanences de députés La République En Marche?
Oui, absolument. Je considère aussi, comme l'a dit Luc Rouban, qu'il s'agit d'une crise antidémocratique qui, effectivement, est aussi un pic d'anti-parlementarisme comme notre pays en a connu, moins fort sous la Ve que sous les républiques précédentes, parce que la Ve a un caractère peut-être un peu moins parlementaire, mais cependant, une véritable crise antidémocratique. Je pense qu'on peut insister peut-être sur ce qu'on connaît depuis l'hiver dernier, sur un caractère un peu novateur de ces violences. Certes, sous la Ve République, on a connu des violences contre les parlementaires. Il y en a eu pendant la guerre d'Algérie, il y en a eu au moment de la crise de mai 68.
Quel genre de violences contre des parlementaires, en l'occurrence ?
Oh ben des parlementaires qui étaient pris à partie, qui tombaient dans des guet-apens, parce qu'ils s'étaient prononcés, même pas par un vote, mais qui avaient pris la parole dans l'hémicycle de manière qui ne convenait pas à ceux qui provoquaient ce type de réaction, ou bien tout simplement parce que ils étaient représentants de la majorité gaulliste contre laquelle ces personnes-là se battaient. Mais ce qui est très nouveau aujourd'hui, depuis quelques mois, c'est le caractère typiquement violent, adressé ad hominem contre un député et non plus contre le Parlement en général. On est passé d'un antiparlementarisme qui agissait contre l'institution du Parlement à un antiparlementarisme qui s'adresse directement aux députés de la circonscription. Et ça, c'est peut-être aussi l'explication, ça a été bien décrit au tout début de l'émission, lorsque le portrait de l'élu local a été fait, par l'ambiguïté, en fait, du mandat du député. Pour une partie de la population, le député, c'est le Parisien qui vote les lois, qui est à l'Assemblée nationale. Et puis, dans le même temps, c'est aussi l'élu local, quand même. Celui qu'on va voir quand on a un problème, quand on a un souci. Certains députés, aujourd'hui, disent d'ailleurs qu'ils sont de véritables assistantes sociales. Et ce va-et-vient entre l'élu local et l'élu national que le député a, peut provoquer des tensions. Et aujourd'hui, c'est précisément la déception qu'a provoqué l'élu local qui provoque tout cela. Et on observe une évolution du statut, finalement. Pour une partie de cette population, le député n'est plus vraiment le représentant du peuple, puisqu'il a trahi, mais le représentant du pouvoir central, alors que précisément, il est le représentant du peuple et le représentant du pouvoir législatif.
Alors,
cette crise de la démocratie représentative dans laquelle nous nous trouvons et qui est difficile à régler.
Luc Rouban, c'est vrai qu'on a souvent vu des agriculteurs manifester leur colère à chaque fois que sont passées des lois dont ils estimaient qu'elles étaient contre leurs intérêts, mais très souvent, c'était devant la préfecture. La préfecture, c'était vraiment là où on venait déposer le fumier, c'était pas la permanence du député.
Oui, c'était l'État. C'est-à-dire qu'effectivement, on visait les politiques agricoles menées par l'État, et donc l'État étant représenté par le préfet et les services de la préfecture au niveau territorial, on s'en prenait aux services préfectoraux. Là, on a effectivement un glissement qui est aussi lié quand même à des phénomènes quand même conjoncturels, lié à ce qui s'est passé à la suite de l'élection présidentielle de 2017 et aux élections législatives de 2017, qui, faut le rappeler, ont quand même battu un record d'abstention. Et donc, il faut bien comprendre que on a une population de députés nouveaux, effectivement, qui était très porteur, en tous les cas qui voulait porter l'image et l'idée d'un monde nouveau de la politique, en dehors des appareils, en dehors des chemins habituels de la vie politique et du parcours, du cursus honorum habituel de la vie politique, qui en France, pour un député, commence à 95% ou 90% des cas, en tous les cas depuis les années 80, par un mandat local, par un mandat municipal. Donc on commençait en conseiller municipal, ensuite on était maire ou maire adjoint, maire. Après on briguait un mandat au niveau départemental, régional. Puis ensuite on était plus ou moins adoubé et on était formé aussi progressivement par les appareils de parti et par le territoire pour représenter la circonscription au Palais Bourbon.
C'est plus le cas.
Et là, c'est plus le cas. Et là, c'est plus le cas. On a des députés qui sont effectivement des novices en politique. On en a beaucoup parlé en 2017. Ce qui avait un côté novateur et tout à fait enthousiasmant, sans doute.
Parce qu'on déplore en plus tout le temps que l'Assemblée nationale n'est pas assez représentative, que c'est toujours les mêmes qu'on y retrouve, que des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, etc.
On pourrait y revenir parce que là aussi, on a beaucoup d'idées reçues. En fait, les hauts fonctionnaires, il y en a très très peu à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est plutôt le problème de la diversification des origines sociales. Mais c'est vrai qu'en même temps, vous avez tout à fait raison, les députés élus en 2017 sont encore moins représentatifs que leurs prédécesseurs sur le plan sociologique. C'est-à-dire qu'on a l'Assemblée nationale la plus élitaire ou la plus élitiste de toute la Ve République. Il ne faut quand même pas l'oublier.
Mais en quoi cet élément peut être un des facteurs d'explication de ce qui s'est passé ces derniers temps? Un peu plus, si on remonte un tout petit peu dans le temps, les députés socialistes, pendant l'examen de la loi El Khomri, avaient eux aussi été visés par des attaques devant leur permanence. Est-ce que Christophe Bellon, encore une fois, est-ce qu'il y a eu un petit virage qui s'est opéré ces dernières années et le député n'est plus considéré comme le représentant du peuple, mais comme un relais de la majorité présidentielle quand il en fait partie?
Il est un représentant de la majorité présidentielle, ça, quelle que soit l'époque, lorsqu'il est député. Il faudrait peut-être calculer le pourcentage de la population qui considère qu'il y a eu effectivement ce décalage de statut entre l'élu local et l'élu représentant l'État central. En tout cas, c'est très présent. Ce que je veux ajouter à ce qu'a dit Luc Rouban, c'est deux choses. On a une représentation nationale très renouvelée, et fondé aussi sur un manque d'ancrage local très fort, qui précisément aurait pu, s'il avait été vraiment présent, aider le parlementaire à juguler ces tensions sociales sur le terrain, et puis d'autre part à une hyper précision professionnelle de ces élus. Et ce sont des élus qui ont été, pour la plupart d'entre eux, en tout cas une large majorité, formés dans l'entreprise et qui donc ont acquis une méthode de décision qui est assez différente de tout le processus parlementaire, de tous les codes électoraux qu'il faut apprivoiser avant de pouvoir disons, être un parlementaire d'expérience. Ces deux éléments-là, au bout de deux ans, ne sont pas encore complètement acquis. Il y en a certains qui se débrouillent très bien. Mais voilà, ça a créé une faiblesse non négligeable dans la manière de gérer une situation. Je voudrais peut-être dire un mot complémentaire. Et peut-être qu'on verra dans un deuxième temps l'histoire un peu plus au sens un peu plus large. Sous les 3e et 4e républiques, on a des exemples très précis qui ressemblent beaucoup à ce qui se passe aujourd'hui.
On était dans des régimes parlementaires à l'époque, hein. C'était très différent, le contexte était différent. Mais allez-y, l'émission passe vite et je voulais poser des questions à Luc Rouban, allez-y.
Alors juste un mot, Luc Rouban, là, on a un petit peu parlé tout à l'heure. Je crois qu'il faut revenir sur la question du mandat non impératif. Un parlementaire élu à un mandat non impératif, ce qui signifie que l'électeur qui élit le député de la majorité en l'occurrence ne doit pas s'attendre à ce que le parlementaire, une fois élu, agisse en fonction des promesses électorales qu'il a faites. Alors je m'explique.
Ah bon ?
Oui, parce que rien n'est écrit, rien n'est signé, il n'y a pas de contrat signé, un programme bien déterminé entre ce qui a été la promesse du parlementaire en campagne et celle que reçoit l'électeur. Parce qu'il s'agit d'abord et avant tout de donner la liberté de conscience au parlementaire. On peut, parce qu'il n'en était pas spécialiste avant l'élection, il peut devenir spécialiste, enfin, il peut changer d'avis sur une question en cours et donc de vote.
Luc Rouban, oui, Luc Rouban.
Cette liberté de conscience, eh bien, son mandat doit demeurer non impératif. Aujourd'hui, on reproche aux parlementaires d'avoir trahi la population, d'être des traîtres, on le voit écrit à plusieurs reprises, alors que précisément, alors bien sûr, il faudrait qu'il y ait plus de pédagogie autour de cette expression-là, mais il est dans son droit que de vouloir voter en son âme et conscience, comme nous l'a expliqué tout à l'heure.
Alors, Luc Rouban, est-ce que ça veut dire que Barbara Bessot-Ballo, qui pendant sa campagne nous a bien expliqué qu'elle n'avait pas parlé du CETA avec les agriculteurs, mais bien du Mercosur, mais elle avait le droit, elle avait le droit comme députée de, même si elle en avait parlé, elle aurait eu le droit de changer d'avis.
Ah, mais
même si elle s'était engagée.
Ah, oui, tout à fait, elle a parfaitement le droit de changer d'avis. Bon, alors, il y a quand même des limites au changement d'avis.
C'est quoi les limites?
Les limites, c'est quand même.
Notre conscience en était assez vite ébranlée, quand même.
C'est-à-dire qu'il faut quand même revenir, là encore, aux sources de tous ces problèmes, c'est-à-dire l'arrivée au pouvoir de La République En Marche en 2017. Le programme d'Emmanuel Macron est quand même un programme néolibéral. C'est un programme qui était, alors et dès l'origine, axé sur l'adaptation de l'économie française à la mondialisation et au capitalisme financier.
Donc il fallait s'y attendre, quoi.
Donc il fallait s'y attendre. Donc ça, c'est l'axe principal. Là où il y aurait une véritable trahison des députés de La République En Marche, c'est au moment si vraiment ils changeaient complètement d'axe. Et alors ça serait bien difficile, à mon avis, étant donné qu'ils sont tenus d'une main de fer au sein du groupe. Mais si, par exemple, il commençait à propager les idées d'autres partis politiques, comme celui de la France Insoumise, pardon. Alors là, ce serait une vraie trahison, si vous voulez. Mais là, on est plutôt dans la liberté de manœuvre du professionnel de la politique, c'est-à-dire dans cette logique de la représentation où l'élu est un mandataire social, un professionnel, qui gère les affaires politiques et les affaires publiques pour le compte des citoyens, ce qui permet aux citoyens de vaquer à ses affaires, sa vie privée. Et ça, c'est tout à fait le modèle libéral qui a été d'ailleurs créé aux États-Unis à partir de la guerre d'indépendance avec Washington, notamment.
Et vous avez employé le verbe de gérer. On est dans une gestion. Est-ce que le fait que les collectivités locales soient devenues ces technostructures puissantes qu'elles sont aujourd'hui, notamment après la réforme de la carte administrative, est-ce que tout ça, ça a changé quelque chose dans le profil, non pas des fonctionnaires territoriaux, c'est un autre sujet, mais des élus locaux? Est-ce que c'est aujourd'hui l'administration qui fabrique la figure de l'élu local?
Alors là, c'est un sujet assez complexe, parce que tout dépend de quel élu local on parle et de quel type de collectivité locale on parle. C'est-à-dire que si on regarde les communes, effectivement, vous avez ce même phénomène. Vous avez, si vous voulez, la loi d'airain des oligarchies, hein, développée par le sociologue Roberto Michels, de l'école italienne de sociologie d'avant-guerre, qui s'applique parfaitement à l'ensemble du système politique, y compris aux collectivités locales. Donc, grosso modo, vous avez des oligarchies politiques locales dans les grandes communes, mais c'est pas du tout le cas des petites communes, des communes rurales de moins de 500 habitants.
Et pour les parlementaires, alors ?
Ah bah les parlementaires, si vous voulez, on remarque quand même depuis un certain temps une baisse régulière du taux de confiance dans leur activité, dans leur personne, avec effectivement une défiance croissante, sauf précisément pour les élus locaux, pour les maires des petites communes. Et c'est là qu'il y a un véritable enjeu. Si vous voulez, aujourd'hui, en ce moment, on assiste à la confrontation de deux logiques. L'une qui consiste à dire, pour faire des économies d'échelle, il faut rationaliser l'ensemble de la décentralisation, hiérarchiser les collectivités locales les unes par rapport aux autres. On va donc donner la priorité aux métropoles, aux grandes villes, voire aux intercommunalités sur les petites communes. Mais c'est pas du tout ce qu'attendent, en revanche, et ça c'est la deuxième version, les électeurs qui, eux, sont très attachés à leur petite commune et à leur autonomie locale et qui font infiniment plus confiance dans un maire, à leur maire dans une commune de petite taille qu'au maire dans une ville de grande dimension.
Christophe Bellon, ce qui a aussi participé à ce déchaînement contre les députés de La République En Marche, c'est le fait qu'il n'a jamais été aussi facile de savoir pour qui et pourquoi notre député a voté. Des sites aujourd'hui le rendent public, il y en a beaucoup, on peut vraiment le trouver très facilement. Est-ce que ça, dans l'histoire de la Ve République ou même au-delà, c'est quelque chose... Évidemment, la puissance des réseaux sociaux démultiplie tout ça, mais est-ce qu'on savait déjà aussi facilement, il y a encore 40, 50, 60 ans, pourquoi notre député avait voté?
Alors il y avait un élément, il y avait une source qui existait déjà, c'était le journal officiel dans lequel vous aviez donc la partie débat, l'ensemble des votes et lorsque le scrutin était public, le vote du parlementaire. Donc on avait déjà les moyens de le faire, sauf que contrairement à aujourd'hui, en effet, il fallait aller la plupart du temps à la mairie ou au centre, au conseil général, au centre des archives départementales pour trouver le journal officiel. Aujourd'hui, il suffit d'un clic pour aller voir comment le parlementaire a voté. D'autre part, il y a un site internet de l'Assemblée nationale qui est extrêmement bien fait, une page du parlementaire avec ses votes, et puis la page, le site internet du député en question. Donc effectivement, c'est très très rapide de se renseigner sur le vote en question grâce à ces nouvelles techniques de communication.
Mais déjà au début du 20e siècle, il y en a qui se débrouillaient pour faire connaître les adresses personnelles des élus et pour dire allez donc lui rendre une petite visite parce que cet élu n'a pas voté pour nos intérêts.
Alors exactement, ça c'est une connaissance un petit peu à contrario de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que les sources personnelles concernant les députés étaient bien plus nombreuses sur la Troisième République, par exemple, ou la Quatrième, grâce à ce qu'on appelle les trombinoscopes. Ils existent toujours aujourd'hui, mais ils sont largement épurés. À l'époque, sous la photo du député, il y avait l'adresse personnelle. Et il est arrivé, donc, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure, peut-être pour trouver une concordance des temps avec la période précontemporaine, des moments où, surtout à partir de mouvements agricoles et agraires, eh bien, il y avait des manifestations très fortes et très violentes contre les parlementaires qui provoquaient un départ à Paris, un contournement de l'Arc de Triomphe, une descente vers la Chambre des députés, et quand on n'y arrivait pas à trouver ce qu'on cherchait, on allait directement à leur domicile. Alors il y a des tas d'exemples dans la presse aussi bien locale qui ont fait état que dans la presse nationale de ces tensions, qu'elles concernent par exemple la grève viticole du midi en 1907, la grève de la Champagne en 1911, mais aussi de toutes ces manifestations agricoles des années 30 qui sont très violentes et qui sont très similaires avec celles qu'on connaît aujourd'hui. Sous la Cinquième, on n'en a pas vu beaucoup, je vous le disais tout à l'heure, mais sous la Troisième et la Quatrième, surtout sous la Troisième République, on en voit énormément qui, encore une fois, prennent le nom du parlementaire, son adresse, ou alors viennent l'attendre devant le Palais Bourbon. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui est préoccupant, parce qu'on s'en prend, c'est un des aspects de l'antiparlementarisme, mais c'est aussi un des éléments qui a contribué à mettre en crise la démocratie représentative à la fin de la Troisième République.
Mais alors ça veut aussi dire, Luc Rouban, que finalement c'est presque la bonne nouvelle de cette histoire, qu'on reconnaît au Parlement un vrai rôle, une importance, que c'est pas le blablament, comme disait Dino Risi dans Les Monstres, cet endroit où cette chambre où on parle beaucoup mais où finalement il se décide rien d'important. Là on reconnaît une importance aux députés.
Oui, mais enfin c'est une reconnaissance négative en l'occurrence, c'est pas très positif. Moi je crois que quand même on est quand même là en face d'autres choses. C'est-à-dire qu'il y a les phénomènes conjoncturels qui sont liés effectivement au profil des députés de La République En Marche. Et on est aussi face à un phénomène beaucoup plus profond qui est celui de l'émergence, et on vient d'en parler de manière très, très, très juste, de la temporalité du politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez deux anthropologies du pouvoir qui s'affrontent. L'une qui est celle, en quelque sorte, du temps long, de la complexité, des institutions, du débat avec l'Europe, avec les partenaires aussi mondiaux au niveau multilatéral, et ça concerne directement la vie de tous les jours, y compris celle des éleveurs, des agriculteurs et de bien des professions. Et puis de l'autre, et on le voit très bien dans la crise des Gilets jaunes, dans le grand débat national, dans ce qui se passe aussi dans ces agressions contre les députés, l'idée que, dans le fond, il faut que... Là, on a une autre anthropologie du pouvoir, celle du temps court, de l'efficacité immédiate. On veut voir immédiatement le résultat de l'action politique. Et ça peut se comprendre, parce que dans certains cas, vous êtes pris à la gorge et vous n'avez pas les moyens d'attendre très longtemps. Mais donc, effectivement, on peut comprendre l'exaspération d'un certain nombre d'agriculteurs ou d'un certain nombre de professionnels. Mais si vous voulez, on est quand même, au-delà même de ce problème du CETA, on est quand même dans une autre vision qui a été... en fait, un petit peu amplifié par les réseaux sociaux, par l'accès à Internet, de cette action politique immédiate, simple, en quelque sorte simplifiée peut-être à l'extrême, avec cette idée que dans le fond, le temps peut être court, on peut tout suivre, on peut tout contrôler, on peut tout évaluer, je dirais, en temps réel sur ordinateur, et ça vous donne, en fait, le on peut pas appeler ça un programme, mais l'ensemble des propositions que font, qu'ont pu faire un certain nombre des Gilets jaunes, notamment le référendum d'initiative citoyenne, y compris pour évoquer le personnel. Donc, on inscrit tout ça dans le temps court, dans la simplicité, avec bien entendu un arrière-fond utopique, puisque nous sommes dans des sociétés complexes.
Donc, vous n'y croyez pas, vous ?
Je n'y crois pas parce que cela suppose qu'il n'y ait pas de conflit au sein du peuple. C'est-à-dire que le peuple soit homogène et que tout le monde soit d'accord pour atteindre les mêmes objectifs dans les mêmes conditions et suivant la même temporalité, ce qui est totalement utopique. Mais si vous voulez, sur ce terrain-là, les Gilets jaunes, c'est dans le fond l'autre face... c'est d'une pièce où, si vous voulez, ça peut être le recto ou le verso, en tous les cas, l'autre face, c'est le macronisme. Et le macronisme, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire, c'est dans le fond, l'idée que vous avez un monde suprapolitique, il y a des normes mondiales, il y a des normes libérales qui s'imposent, qui vont s'imposer à tout le monde, il y aura des gagnants, il y aura des perdants, tant pis pour les perdants, il y a une forme de dureté sociale dans tout ça qui... absolument incontestable, et cela peut pousser effectivement à l'exaspération et à la violence, parce que dans ce cas-là, vous avez l'opposition, si vous voulez, vous avez un dialogue démocratique de sourds, en quelque sorte. C'est-à-dire, les uns vous parlent complexité long terme, les autres vous parlent quoi ? Ils vous parlent de leur pratique professionnelle, de la vie en pratique, de ce qu'ils ressentent. Et là, on va très loin, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on sort complètement des débats habituels. Alors effectivement, on n'est plus dans le clivage gauche-droite. Il existe toujours ce clivage, mais il passe au second plan.
Donc, pendant la Deuxième, la Troisième République, toutes les batailles d'anti-parlementarisme ont fini par se résoudre, et souvent avec des élections législatives, là, vous pensez qu'on a trop changé de monde, entre guillemets, pour qu'on puisse trouver une issue à tous ces derniers événements ?
Les crises de la Troisième et la Quatrième République, il ne faut quand même pas oublier que c'était que les crises du parlementarisme aboutissait à une conclusion très simple, c'est la grande instabilité ministérielle et gouvernementale. Donc en fait, la solution, ça a été la Ve République et la concentration du pouvoir exécutif, notamment à partir de 62, autour du président de la République. Là, on est ailleurs, c'est-à-dire que même ça, ça ne suffit plus. Donc on est au-delà de ce règlement entre pouvoir législatif et pouvoir exécutif. On est dans les fondements même de ce qui fonde le pouvoir en démocratie.
Eh ben, je vous remercie à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui pour en parler. Christophe Bello, vous étiez par téléphone et je vous remercie. Luc Rouban, je cite l'ouvrage que vous allez signer, que vous avez déjà signé, mais il ne paraît qu'en septembre. Ce sera La matière noire de la démocratie aux presses de Sciences Po. Merci à vous.
Merci.
Il dit je ne parle pas et mon cœur brûle. Je voudrais traverser ce pays. Mes yeux sont pleins de guerre, ma bouche est sèche. Je n'ai pas d'amis. Il dit je viens de la mine dans la ville. Je cherche le pardon et l'oubli. J'ai ma Bible sur la poitrine, je marche vers les salines. Il dit personne ne m'a vu. Il dit que les prières nous sauvent et qu'il ne se met plus à genoux. Ceux qui m'ont mis au monde ne sont plus en vie. personne sur terre ne me connaît. Je ne parle pas et j'ai tout donné. Le monde est plein de ronces et ce que je cherchais, je ne l'ai jamais trouvé. Il dit je ne parle pas et mon cœur brûle. Et j'ai déchiré mon cahier. J'étais mort au milieu du béton.
Alain Bashung, Les Salines, juste pour le plaisir. Tout de suite, deuxième partie du magazine du week-end. Le climat, nouvel architecte des villes.
Le magazine du week-end, Julie Gacon.
Le soleil cuisait la foule dans un malodorant courbouillon de chaussettes et de balançoires à Mickey. Paris l'été, 6h du soir, fleurait l'aisselle et la vaisselle. Toutes les robes à fleurs ne moulaient pas loin de là des Brigitte. Les cravates poissaient à des cols sales sous des faces lunaires de pendus. La multitude fusait en tous sens, évoquant vue des toits, soit un grouillement mou d'amibes, soit tout un charleston de spermatozoïdes pressés de faire mouche. La torpeur estivale urbaine racontée par René Fallet dans Paris au mois d'août, écrit en 1964 et cette année-là pourtant, d'après nos informations, il n'a pas fait plus de 33 degrés dans la capitale, sauf une fois, allez, une seule fois, le 26 août, 35 degrés. De la rigolade par rapport aux 42 degrés 6 enregistrés le mois dernier, également à Tours, à Orléans, à Bordeaux, entre autres. Il a fait 40 degrés à Lille. Festival de cravates poisseuses et de visages cireux. Un avant-goût de ce qui devrait advenir de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps dans les années qui viennent, des métropoles en surchauffe, des températures équivalentes dans 30 ans à celles que connaissent aujourd'hui des villes situées à plus de 1000 km au sud. Alors à défaut de poser pour l'instant une question majeure, où devons-nous résider, réflexion générale sur l'établissement des hommes, eh bien les grandes villes tentent de faire du courant d'air, de faire baisser le thermomètre ici ou là, notamment en végétalisant, ce verbe qui a fleuri sur l'asphalte et sur les toits, et qui est aussi l'un de vos leitmotifs. Michel Desvignes, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes paysagiste et vous êtes à l'origine de ces bosquets d'arbres que l'on appelle forêts urbaines, telles que celle qui a surgi. C'est vrai que j'ose pas dire qui a poussé, parce que je sais pas si elle a vraiment poussé, vous allez nous le dire, à Tokyo, ou juste là, derrière ce studio, à la Maison de la Radio. Vous nous avez dit en arrivant que c'était vous qui aviez planté ces arbres derrière la Maison de la Radio.
Oui, oui, en tout cas, dessiné.
Dessiné, on dessine des arbres.
Mais oui.
C'est-à-dire?
Ah, on imagine où on les met, oui.
Donc les c'est plans. Vous qui avez décidé oui, de les mettre. Et pourquoi là, alors?
Oh, c'est un peu compliqué à dire. Ouais, toute la Maison de la Radio aujourd'hui est immergée dans une sorte de boisement, pour des raisons d'ailleurs très honnêtement d'abord esthétiques. C'est une autre manière d'inscrire ce bâtiment dans son contexte avec cette sorte de bois intermédiaire entre ce quartier historique et ce bâtiment qu'il est aussi.
Et à l'intérieur des bureaux, on se gèle, mais c'est pas à cause de vos arbres, c'est à cause de la surclimatisation dont on parlera aussi dans cette émission. Vous êtes ici en plateau avec celui qui travaille spécifiquement sur ces questions à Paris. Bonjour Sébastien Maire.
Bonjour.
Vous êtes délégué général à la transition écologique et à la résilience de la ville de Paris. Résilience, ce mot à la mode a été repris quand a été créé votre poste il y a 4 ans. On parlait déjà de résilience à tout propos. Même pour le changement climatique?
Oui, en fait, la résilience, c'est le prisme global. C'est une vision plus holistique, systémique. Le dérèglement climatique fait partie du champ de la résilience, mais il n'y a pas que celui-ci.
Bon, alors nous sommes en ligne et très heureux de l'accueillir par téléphone, donc avec Rudy Ricciotti. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes architecte, vous avez Grand Prix National de l'Architecture en 2006, auteur de nombreux bâtiments, édifices et ouvrages, et notamment pamphlet, le dernier, L'exil de la beauté, paru en avril dernier aux éditions Textuelles. On vous connaît comme le pionnier, l'ambassadeur, dit-on, du béton. Dernière preuve en date, le MUCEM à Marseille, où vous êtes actuellement. Je voulais vous poser cette première question, Rudy Ricciotti, en tant qu'architecte. Pendant vos études d'architecture dans les années 70 et 80, à Genève ou à Marseille, est-ce que la question du climat, ou sans aller jusque-là, ne serait-ce que des saisons, des rythmes, faisait partie de l'enseignement?
Non, on ne faisait pas partie de l'enseignement. Moi, je crois qu'avec un peu de bon sens, on peut s'en apercevoir. Vous imaginez donc le MUCEM, qui est une œuvre à 100% en béton. Vous voyez bien qu'il y a un confort climatique, il y a une respiration, il y a une porosité, il y a des ombres portées là où il le faut, il n'y en a pas là où il ne faut pas, par exemple. Ça relève un peu de bon sens. Et je crois que c'est pas... Je crois qu'il n'y a pas lieu de produire une académie de la pensée sur le confort bioclimatique. Il faut simplement essayer de comprendre, par exemple, puisque le béton est en jugement aujourd'hui, que le béton, au moins, parce qu'on est dans des bilans thermiques d'hiver, c'est quand même quelque chose de très important, il est dans la masse, dans l'empreinte environnementale, dans la résistance thermique, dans l'incapacité de vieillissement, il est local. Donc oui, ça n'est pas ce qu'on en fait du béton.
Mais Rudy Ricciotti,
on le déshabille, on peut le faire respirer.
Voilà. Alors vous faites tout de suite l'avocat du béton, ce qu'on comprend bien, mais sans aller jusque là aussi précisément, la question du climat globalement, même dans le dessin des villes, je me rappelle un avoinu avec Roland Castro, cet architecte qui racontait que quand il était en stage dans les années 60, années de désastre architectural, disait-il, il était en stage dans des cabinets d'architectes qui tous, même les plus grands, quand ils avaient remporté un appel d'offres pour une ville nouvelle, disaient, on n'a même pas besoin d'aller sur place pour dessiner la ville, on doit juste savoir où est le soleil. Donc quand même, il y avait la question du rythme du soleil, des saisons, du climat ou pas dans les dessins des villes.
C'est pas ma génération. Vous voyez, moi, en 1960, j'avais...
Oui, mais vous les observez, ces villes-là.
Mais je pense que cette période-là, du grand gauchisme urbanistique, c'est des années d'apocalypse, quand même. Évidemment, ce sont les mêmes architectes qui habitent les beaux quartiers aujourd'hui dans le centre historique de Paris qui se sont vautrés dans une urbanisation de planification cynique, notamment dans toute la couronne de l'Île-de-France, si c'est ce que vous voulez m'entendre dire. Attendez, moi, j'aimerais juste revenir sur la végétalisation des façades. On a atteint un niveau d'infantilisme avec cette espèce de burqa verte, hein, cette barbe verte dégoulinante, qui a atteint un niveau critique en termes scientifiques. Vous savez, il n'y a pas de masse racinaire, il n'y a pas de terre. Et je pense que le paysagiste qui est là doit avoir un point de vue dans le même sens. Il n'y a pas de masse racinaire, il n'y a donc pas d'humidité, et donc il y a plein de nouvelles pathologies qui se développent, qui appellent davantage d'engrais, davantage d'insecticides, et surtout de l'eau. Et vous savez que la denrée la plus rare dans les années 60, beaucoup plus vite que le pétrole, ça va être l'eau. Voilà.
Voilà. Alors...
Et je crois que le vrai sujet, c'est plutôt de planter des arbres d'alignement dans la ville pour ombrer le goudron, vous ne croyez pas ?
Rudy Ricciotti, la liaison n'est pas très très bonne. Je vais donner la parole à nos deux invités qui sont en plateau. Michel Devine, qui aura plein de choses à vous dire sur la végétalisation, et Sébastien Maire sur tout le reste. C'est vrai que pour lutter contre ces îlots de chaleur, comme on dit en ville, on a plein de moyens d'action, donc du détail, peindre en blanc des façades, comme couvrir les immeubles de pelouse ou couvrir des hectares entiers d'arbres. Alors, Michel Devine, pour répondre à ce que disait Rudy Ricciotti sur la végétalisation et cette burqa verte, comme il disait à propos de ces surfaces que l'on boise à tout bout de champ, vous, comment vous vous y prenez quand on vous demande, notamment à Tokyo, dans un quartier d'affaires qui ressemble à la Défense, quand on vous demande de planter une forêt entière?
D'accord. Non, je ne peux être que d'accord avec Rudy Ricciotti. Et d'abord, très franchement, ce terme de végétalisation est obscène. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on l'évite dans cette émission. Et
alors que c'est votre métier.
Non, c'est pas mon métier du tout. Je veux dire, je suis paysagiste, urbaniste éventuellement, mais en aucun cas je serais, c'est pas quelqu'un qui passe un onguent sur la ville. Et je trouve que le terme de Rudy est tout à fait valable. Donc, mais justement, c'est très important qu'on évoque cela. C'est-à-dire, oui, le végétal est important, mais il y a des échelles différentes. Et il est dérisoire, il est de l'ordre de la communication, effectivement, d'accrocher ces végétaux sur les façades, ça c'est bien entendu. En revanche, peut-être qu'on parlera dans cette émission de différentes échelles, par exemple celle de l'espace public en ville, dans les centres-villes, et puis aussi nous devons nous interroger sur ce que sont nos villes aujourd'hui. Et la ville est étendue, comme on le sait, elle est même diffuse, et là où nous devons agir, c'est essentiellement là. peut-être juste en deux mots pour l'introduire, on y reviendra, mais les forêts urbaines sont très étudiées dans les pays du Nord. Et ce n'est pas celle qu'on croit. Ce ne sont pas ces décors de centre-ville, ce sont souvent, au fond, ces lieux où l'habitat diffus s'accompagne d'une très forte végétation. Au fond, ce qui n'est absolument pas mainstream. C'est pas ce qu'on pense aujourd'hui. Nous sommes convaincus que la densité est la seule solution. Dans ces pays du Nord, à l'inverse, on pense que cette diffusion s'accompagne d'une présence d'un nouveau milieu vivant, ces forêts urbaines, dont ils ont fait l'évaluation des performances, qui est assez extraordinaire. Et ça veut dire que peut-être un jour, nous changerons de vision sur cette densité à tout prix.
Quand vous parlez de densité à tout prix, de la population. C'est ça,
de la construction, de la population, ouais. Etc.
Parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'on découvre, Sébastien Maire, cette question aujourd'hui, de la question de la canicule dans les villes, alors que déjà, c'était dès le 19e siècle, c'est ce géographe anarchiste Élisée Reclus qui dénonçait déjà alors, le plan en damier comme étant une mauvaise chose pour la chaleur, et aussi la densité urbaine, et en disant que c'était ça le vrai sujet, ces villes qui aujourd'hui encore parlent de résilience, et à la mairie de Paris on parle de résilience, et de développement durable, mais qui continuent à construire des tours d'habitation. Comment vous faites, vous, Sébastien Maire, quand vous voyez, par exemple, que la mairie de Paris, l'année dernière, l'été, en plein mois de juillet, en pleine canicule, ou début d'eux, vote la construction de 6 gratte-ciel à Bercy? Vous êtes toujours dans une contradiction à la mairie de Paris. Et vous, vous devez lutter contre ça.
Non, c'est pas lutter contre ça. On est dans une évolution de paradigme extrêmement importante. Les deux dernières canicules l'ont montré. Enfin, le dérèglement climatique devient réel pour la population, pour les décideurs économiques, politiques, etc., dans ses conséquences à très court terme. C'est plus une affaire de génération future, c'est une affaire des générations d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 1 à 2 jours de canicule par an, effectivement, comme au 19e siècle, etc. D'ici la fin du siècle, on en attend plus de 30, et la courbe est exponentielle. On attend, dès 2050, des températures à 55 degrés à l'ombre à Paris. Aujourd'hui, la ville n'est pas capable d'encaisser ça, notamment à cause de ses matériaux. Les matériaux comme le béton, comme l'asphalte, comme le bitume, le goudron, ont des comportements thermiques absolument dramatiques pour la gestion des canicules parce qu'ils absorbent la chaleur la journée et ils la redonnent la nuit. Et donc je suis par contre tout à fait d'accord que végétaliser une façade, peut-être que c'est certainement pas suffisant. La réflexion, elle doit être beaucoup plus large que ça, sur l'espace public, sur les bâtiments, en termes de matériaux en général. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir une façade végétalisée, il vaut peut-être mieux avoir une façade en matériaux biosourcés.
C'est quoi biosourcé?
Biosourcé, c'est-à-dire l'énergie qui a été nécessaire pour produire ce matériau, elle vient du soleil.
Mais alors, lesquels de matériaux?
Par exemple, du bois. Par exemple,
la pierre, on y revient.
La pierre a un comportement thermique assez intéressant. En effet, ça pose tout un tas de problèmes. Alors c'est sûr que le béton a eu énormément d'avantages et il en a toujours aujourd'hui sur beaucoup de domaines. Hein. Et de toute façon, il n'y a pas un matériau qui doit s'imposer face à tous les autres. La résilience, c'est d'abord une question de diversité, de palette de solutions en fonction des endroits, en fonction des contraintes locales. Par contre, le problème avec les matériaux qu'on utilise aujourd'hui, par exemple sur l'espace public ou en général, c'est ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie. C'est l'énergie grise. C'est toute l'énergie qui a été nécessaire pour extraire le matériau du sol, le transporter, le transformer sur place, etc. Et ça, c'est absolument fondamental dans le bilan global écologique de l'aménagement de l'espace public ou de la construction.
Et c'est en ça, Rudy Ricciotti, que vous défendez le béton et que vous avez un débat avec Sébastien Maire, puisque vous dites que le béton, en général, c'est du circuit presque court, quoi. C'est, allez-y, je vous laisse en débattre. Le béton, pour vous, c'est un matériau écologique.
C'est un matériau écologique, puisque si son empreinte environnementale est étalonnée à 1, l'acier c'est 80 fois plus, l'aluminium 220 fois plus, l'inox c'est un horizon inconnu, le verre un horizon inconnu, etc. Et lorsque le bois arrive d'Autriche, dans les conditions d'hygrométrie sous contrôle, il a une empreinte environnementale particulièrement suspecte. Alors, il ne s'agit pas de dire l'un contre l'autre, architecture contre nature, évidemment, on travaille tous avec tous les matériaux, lorsque c'est le bon moment de le faire. Mais l'empreinte environnementale, c'est la consommation d'eau, c'est la consommation d'énergie primaire, c'est la consommation de... Et on sait très bien que le béton n'a rien à revendiquer, à se reprocher par rapport à... C'est vrai qu'il a une énergie, mais bon, il ne s'agit pas de bouleverser 11,5 de comportement thermique, de bilan thermique sur l'année, parce que d'un coup, il y a eu une surchauffe cet été. Non, le vrai sujet, c'est d'avoir des masses végétales, des arbres d'alignement dans la ville, qui soulignent la ville, qui fabriquent des espaces urbains, qui qui font de l'emporter sur le goudron. C'est la partie réverbérante de la cité, c'est la partie horizontale, c'est pas la partie verticale.
Alors, Michel Devigny, expliquez-nous comment ces forêts urbaines, ce qu'elles apportent dans une ville, puisque par ailleurs vous êtes critique de la végétalisation, de ce qu'on appelle notamment des toits de Paris, qui, je l'imagine, demandent énormément d'énergie, énormément d'eau, mais ces forêts, déjà, il faut qu'on nous explique comment elles poussent dans la ville. Comment vous décidez de l'endroit de faire pousser un arbre et comment vous faites dans un sol où, très vite, j'imagine, vous tombez sur une ligne de métro, sur des tuyaux, sur des parkings.
Si vous bien, je vais répondre en deux temps. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, peut-être qu'on resitue un peu plus largement cette chose de forêt urbaine. Donc, j'aimerais d'abord vous parler de l'échelle plus large de Paris, mais donc non pas forcément dans son périphérique, mais de cette grande métropole. Et il vient d'y avoir une étude à laquelle je participais avec Richard Rogers sur une transformation des voies rapides et des autoroutes autour de Paris. Dans le cadre de cette étude, on s'est rendu compte, et c'est une évidence, on l'avait déjà vu avec Jean Nouvel dans le cadre du Grand Paris, que les abords de toutes ces voies rapides, de toutes ces autoroutes autour de Paris, ce sont des centaines et des centaines d'hectares qu'on peut planter. C'est-à-dire qu'il y a immédiatement, si nous en avons la volonté, la possibilité d'avoir de très grandes structures paysagères, forestières autour de Paris.
Mais où est-ce qu'on roule alors ?
Non, c'est tous les abords. C'est-à-dire que c'est comme si on les occultait. Quand vous rentrez à Paris en voiture, d'où que vous veniez, le spectacle est affligeant. C'est-à-dire que c'est comme si le paysage avait été absolument négligé depuis des générations. Et bizarrement, ce n'est pas du tout l'héritage que nous avions de la fin du 19e siècle et du début du 20e aux États-Unis, où les villes se sont installées dans des géographies amplifiées où le paysage est important. Si vous allez à Washington, depuis l'autoroute jusqu'au Mall, vous traverserez des forêts, une sorte de géographie embellie, amplifiée, et tout ceci est un artifice. Tout ceci était une vision urbanistique que nous n'avons pas eue parce que nous avons eu des guerres en Europe qui ont tout simplement dévasté les milieux, les compétences, les désirs. Et tout se passe comme si la ville du 20e siècle s'était fait sans cette vision-là. C'est tout à fait faisable aujourd'hui. Donc ça, c'est peut-être l'essentiel. Après, la question que vous me posez concerne les espaces publics des centres-villes. Et là, finalement, on parle d'une sorte de typologie paysagère, de jardin, pour dire les choses tout simplement. Et ce que nous proposons aujourd'hui, c'est plutôt la reconstitution de milieux vivants que simplement une sorte de décor qui aurait une connotation historique quelconque. Alors c'est vrai, je vous parlerai peut-être plus tard de mon expérience au Japon, qui était particulière.
Ou au Havre, par exemple, chère à notre réalisatrice Charlotte Roux. Vous êtes aussi impliquée dans plein de projets dans toute la France. On n'est pas parisien dans cette
époque. Non, je travaille dans 18 pays.
Dans 18 pays, mais aussi dans toute la France.
Bah oui.
Voilà. Non, mais parce qu'il faudra aussi parler de d'autres bien villes sûr que de Paris. Sébastien Maire, pour réagir à ce que vient de dire Michel Devigny.
Cette question des forêts, des arbres en général en ville, est vraiment une question importante, parce que on voit toutes les villes d'Europe et du monde sont en train de planter des arbres en disant ça va être une des réponses efficaces pour s'adapter au dérèglement climatique, donc pas uniquement atténuer les émissions de carbone, même si ça y participe également, mais aussi surtout pour s'adapter, parce qu'il va falloir de l'ombre. Néanmoins, si on applique ce prisme un peu holistique que j'évoquais tout à l'heure de la résilience, la question qui se pose aujourd'hui, on plante des arbres qui font 1,50 m, 2 mètres de haut aujourd'hui, dans l'espoir qu'ils nous fassent de l'ombre dans 20 ans. Mais ces arbres supporteront-ils le climat de dans 20 ans, qui sera radicalement différent de celui d'aujourd'hui, ou mourront-ils avant d'avoir atteint leur période de croissance? Puisqu'on sait que dans 20 ans, les températures sont très différentes. Les degrés de... Il y aura des sécheresses. Il faudra que l'arbre puisse supporter une sécheresse. Il faudra qu'il puisse supporter des inondations. Ou alors faudra-t-il qu'il y ait des fonctionnaires
des
à temps... Exactement. Les tempêtes, les vents violents, etc. Et donc aujourd'hui, dans la plupart des villes, cette question n'est pas posée. On plante des arbres à tout va, qui risquent de ne pas survivre au moment où on en aura besoin.
Donc vous critiquez vous-même la décision de la ville de Paris?
Pas du tout,
puisque
justement, à la ville de Paris, on a lancé une étude déjà depuis pas mal de temps qui alimente les plantations d'arbres, qui s'appelle l'étude Arbres et Climat, une étude sur le long cours, qui vise à identifier des essences qui sont à la fois compatibles avec le climat d'aujourd'hui et avec le climat de demain. Et vraisemblablement, ce sont des essences en majorité exotiques. Et quand on dit exotique, ça veut dire du sud de la France, un peu plus au sud. Mais cette réflexion, on doit l'avoir aussi quand on végétalise. C'est valable pour les arbres, c'est valable pour toutes les autres strates de végétaux. Les végétaux qu'on plante aujourd'hui doivent être compatibles avec le climat d'aujourd'hui, mais aussi avec le climat de demain, et c'est pas si simple.
Michel Devigny, qu'est-ce que vous plantez comme, ou qu'est-ce que vous dessinez comme arbre?
Alors, évidemment que ce qui vient d'être dit est un élément important, et les forestiers travaillent depuis plusieurs dizaines d'années. C'est-à-dire qu'il y a très longtemps que les ingénieurs en charge des forêts ont anticipé ceci par principe de précaution, et que les palettes végétales des plantations forestières justement prennent en compte ces évolutions à la campagne.
Pas dans les villes, quoi.
Pas dans les villes. Alors, est-ce qu'on a 30 secondes peut-être pour que je parle de cette expérience de Tokyo?
Allez-y.
En fait, l'empereur du Japon, dans le palais impérial dans les années 80, a décidé de reconstituer un morceau des forêts qui poussaient tout autour de Tokyo et que le développement de la métropole a éradiqué. C'est-à-dire qu'il y a 40 millions d'habitants à Tokyo et les forêts disparaissent. Et donc, dans les années 80, on a transporté dans le jardin du palais impérial tout un sol, tout un milieu entier. C'est-à-dire que c'est vraiment une sorte de transplantation d'un morceau de paysage au cœur de ce jardin. Et ça a une conséquence urbanistique étonnante. Autour du palais impérial est le quartier d'Otemachi, qui est un quartier d'affaires. Et urbanistiquement aujourd'hui, on a obligation, dès lors qu'on agit sur l'une des parcelles, de replanter une partie de cette forêt, de cette même forêt. De sorte que tous ces morceaux de forêt ensemble, autour du palais impérial, continuent à contribuer à constituer une sorte de milieu. Et donc j'ai eu la chance, il y a 15 ans, de contribuer à cela avec les botanistes du palais impérial pour amener une sorte de forêt qu'ils appellent le primaire, ce qui n'a pas beaucoup de sens pour un écologue, mais tout de même c'est cela. Et pour l'anecdote, on a pré-cultivé un hectare dans les montagnes autour de Tokyo, que l'on a transplanté, et ça marche assez bien. Donc c'est pour moi une référence très forte. Et j'avoue que je n'avais pas tout à fait compris au début quelle était leur ambition. Et en y étant retourné régulièrement, je vois quand même que dans ce quartier d'Otemachi, cette présence-là a une échelle, disons une masse critique, qui commence à avoir
des effets,
un sens et un effet, encore une fois, sans exagérer l'évaluation climatique qui est peut-être dérisoire, mais en tout cas, c'est une présence. Voilà.
J'ai lu qu'un seul arbre mature évaporait 450 litres d'eau, soit l'équivalent de 5 climatiseurs. Est-ce que ce sont des chiffres comme on nous sort comme ça quand on parle d'équivalent terrain de foot, ou ça veut rien dire, ou ça veut dire quelque chose?
Moi, je crois que ça ne veut rien dire.
D'accord, ok. Rudy Ricciotti, on entendait tout à l'heure que vous n'étiez pas contre, au contraire, de planter des arbres quand c'était bien fait et pensé intelligemment. Ceci dit, c'est autant d'hectares qui ne sont plus dévolus, que ce soit à la construction, à la rénovation, donc qui ne sont plus affectés, notamment à vos pairs, aux architectes. Comment on fait pour que toute cette bonne volonté ne s'écrase pas contre le mur de la pression foncière, des prix de l'immobilier? Il y a quand même toujours un équilibre à trouver.
Attendez, vous croyez vraiment que je vais mordre ce genre de questions? C'est la nature contre l'architecture, mais c'est déconnant quand même. Devine l'a dit d'abord, et c'est une volonté de l'État, l'intensité participe de l'économie du sol, notamment de l'économie du sol au sens horizontal du terme. C'est que le sujet, l'accumulation, je le disais tout à l'heure, l'accumulation thermique, c'est quand même davantage une surface horizontale qu'une surface verticale. Et c'est sur les surfaces horizontales qu'il faut se questionner, c'est-à-dire peut-être arrêter le calibre du goudron, revenir à des pavements avec des joints filtrants, revenir peut-être à des voies en terre. On est en train de réfléchir à ça, essayer de trouver des solutions pour faire des voies qui soient perméables, ne soit pas réverbérant thermiquement comme l'est le goudron, et effectivement aussi revenir, comme au 19e siècle, à l'armature végétale qui souligne tous les traits de la cité. C'est bien l'horizontale que le paysage de demain doit se reconstruire, et pas la verticale. Le vert dégoulinant, ce que j'appelais tout à l'heure la bourta verte, c'est devenu le nouveau tapin des promoteurs et des architectes pour empêcher de penser la ville du futur. Point final. Vous avez d'autres questions?
Oui, à Sébastien. Mais vous savez, on aime beaucoup quand vous êtes énervé, et ne prenez pas comme une provocation chaque question qu'on vous pose, Rudy Ricciotti.
Attendez, bon. Non, mais je suis un grand garçon, mais quand vous avez l'air de croire que je vais mordre à la question.
Attendez, vous pouvez.
Vous pouvez pas
faire comme s'il n'y avait pas une question de pression foncière. Attendez, on va poser la question à Sébastien Maire, la pression foncière.
Non, mais attendez, tout à l'heure, vous avez agressé la ville de Paris en disant on autorise. Mais heureusement que la ville de Paris autorise les immeubles de grande hauteur, c'est la manière d'économiser le sol, en laisser pour les générations futures.
Oui, mais donc on continue, la densité urbaine continue de s'étendre.
Mais c'est une volonté de l'État. Bon. Non, la densité urbaine, c'est la verticalité, c'est pas l'horizontalité. Vous vous trompez. Et c'est une volonté de l'État. C'est l'esprit même de la loi SRU. Voilà. Alors, l'économie du sol. Voilà.
Alors, Sébastien Maire.
La densité, bien sûr, a plein d'avantages dans le domaine de la transition écologique, mais plus la surdensité. Et c'est une question de curseur. Alors, il se détermine en fonction des territoires, etc. Ce qui est sûr, c'est que Paris, par exemple, c'est quand même la quatrième capitale la plus dense du monde. On a la même densité à Paris qu'à Bombay, grâce au talent d'Haussmann, on ne le voit pas autant qu'à Bombay, mais la densité et du coup la pression sur les infrastructures publiques, les services publics, elle est quand même là. Il faut peut-être la gérer autrement. Et faire avec l'existant. À Paris, on n'a pas trop le choix. De toute façon, la ville, elle est quand même déjà majoritairement construite. Et on a un potentiel énorme en valorisant l'existant. Et je peux donner un exemple. Un projet qui est mené maintenant par la ville de Paris depuis 2 ans et qui se développe. L'utilisation des cours d'école, des 70 hectares existants de cours d'école et de collège à Paris, pour les transformer en îlots de fraîcheur, pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit, travailler sur cette couche horizontale, plus de béton, plus d'asphalte, puisqu'on utilise encore un béton, mais qui est un béton poreux, un béton clair, qui limite l'effet d'îlot de chaleur urbain. On végétalise massivement les cours, on met des pavés enherbés avec des joints naturels pour favoriser l'écoulement des eaux, etc. Et on est complètement dans ce prisme de se dire on va progressivement faire évoluer l'espace public à Paris. On a commencé par les cours d'école, c'est intéressant parce qu'il y a 70 hectares quand même, il y a tous les 200 mètres une cour d'école qui aujourd'hui joue un rôle de radiateur pendant les canicules parce que c'est du bitume et ça rejette toute la nuit de la chaleur. À terme, ça sera l'inverse, on aura des îlots de fraîcheur, on en a 770 quand même à Paris si on compte les cours d'école et de collège. Donc 770 îlots de fraîcheur partout dans la ville.
Vous appelez îlots de fraîcheur les parcs, les endroits où il y a plus des parcs,
en plus des parcs puisque ce sont des espaces ombragés, végétalisés, avec un sol clair, etc., etc. Et on va livrer là, d'ici 2 semaines, la première rue résiliente dans le 20e arrondissement, qui est ce concept appliqué à la rue. À la rue, des matériaux plus clairs. Alors, il faudra toujours des matériaux qui puissent être circulés, etc., en tout cas pendant un certain temps.
Plus clair parce qu'ils rejettent la chaleur.
La couleur du matériau est absolument fondamentale, ce qu'on appelle l'albédo. Et elle détermine notamment la capacité du matériau à accumuler la chaleur ou à la rejeter. Donc la clarté du matériau est un élément important. On a travaillé notamment avec le CERIB, le centre d'industrie du béton, le centre technique des industries du béton, pour essayer d'affiner ce que seraient des nouveaux matériaux de sol qui soient plus vertueux pour lutter contre les canicules.
Et des routes en béton, on s'y remet parce que le béton absorbe moins la chaleur que l'asphalte. Et j'ai lu ici et là qu'on relançait des routes en béton.
Alors, je ne sais pas si c'est exactement des routes en béton, mais en tout cas, effectivement, il y a plusieurs expérimentations en cours sur des nouveaux types de matériaux qui sont proches du béton ou qui restent dans la même famille, mais qui auraient de multiples avantages, c'est-à-dire une énergie grise la plus faible possible, si possible plus de matériaux pétrolifères à l'intérieur et qui soient clairs et qui soient perméables.
On évoquait la question de la gestion de l'eau dans cette volonté de réduire la canicule dans les grandes villes, Michel Desvignes. Alors, il y a ces joints poreux ou filtrants qu'énonçait Rudy Ricciotti. Il y a par exemple à Lyon, dans le quartier de la gare de la Part-Dieu, qu'on les a installés pour créer une zone d'humidité. À Nice, un système d'humidification des sols avec une petite buse d'aspersion qu'on intègre à un trottoir. Et vous, évidemment, pour vos forêts urbaines, vous avez besoin d'eau. Est-ce que tout ça ponctionne les nappes phréatiques? Comment vous utilisez l'eau?
Écoutez, d'une manière variable, j'ai beaucoup travaillé dans le Golfe, au Qatar notamment. Donc les problèmes se posent là d'une manière caricaturale qui est intéressante. Et en effet, vous avez raison, c'est un sujet clé. Et je sais, pour connaître quelques scientifiques, que pour l'instant, il n'y a pas forcément encore d'approche globale quant à l'eau. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'ingénieurs qui résolvent des problèmes. En revanche, la conscience de ces cycles d'une manière globale sur des régions n'est pas tout à fait prise en compte aujourd'hui. Et ça va devenir effectivement une réflexion d'avenir très importante. Parce que ce que j'aimerais juste dire, bien sûr, là, on évoque facilement ces espaces publics qui font image. Mais ce qui est devant nous tout de même, c'est un phénomène important. Je veux dire, on sait que la démographie mondiale nous réserve des surprises, pas des surprises du tout. Je veux dire, nous savons qu'il y aura 2 milliards de personnes en plus à très court terme. Et quand on divise ce nombre de personnes par le nombre d'années, ça donne à peu près la mesure des villes que nous devons construire dans les 30 ans à venir. Donc le sujet n'est pas ici. Ici, nous transformons des villes, nous les améliorons, comme on vient de le dire. Le vrai sujet, c'est au fond, est-ce qu'on a quelque chose à dire aux Africains? Est-ce qu'on a quelque chose à dire en Asie sur la manière justement de concevoir des villes nouvelles aujourd'hui, parce que c'est le sujet, en prenant en compte ce que nous savons, les cycles de l'eau que vous décrivez, la chaleur, la densité. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça le grand enjeu, c'est qu'est-ce que nous apportons, nous, avec notre connaissance, notre expérience, aux 2 milliards de personnes qui vont venir s'ajouter à la population mondiale. Et je crois que les sujets que nous évoquons aujourd'hui sont clés, évidemment.
et notamment vous, Rudy Ricciotti, en tant qu'architecte, qu'est-ce que vous apportez comme connaissance, qu'est-ce que vous apportez au débat sur cette question-là spécifique des villes face au changement climatique, et notamment dans l'hémisphère sud? Vous avez été consulté?
D'abord, je pense qu'on n'a aucune leçon à donner à qui que ce soit, nous les Français. Je pense qu'on est en matière de d'empreinte environnementale, on est quand même un peu en pointe. On consomme pas mal, on a qu'à voir à la prolifération de la bureaucratie française avec différents matériels et matériels d'accompagnement. On voit ce que ça peut donner. Je pense qu'une bureaucratie africaine dans le Burkina consomme beaucoup moins, climatiseur inclus, qu'une bureaucratie française, dont on a zéro leçon à donner. Pour ce qui me concerne, moi je crois qu'en matière de recherche d'empreintes, de réduction d'empreintes environnementales, la solution, c'est le lien de proximité. Une série de facteurs d'évaluation de l'empreinte environnementale aujourd'hui qui s'adossent à la proximité de la ressource. Et je crois que ce qui serait plus dans la dignité aujourd'hui, c'est d'éviter de faire venir de l'acier d'Inde, d'Afrique, de Turquie ou de je ne sais où, c'est de travailler des ressources de proximité. Alors évidemment, ça peut être des agrégats recyclés, hein, parce qu'on est sur le béton, mais le béton, l'essentiel des ressources du béton, c'est du recyclage, je vous signale au passage. Hein. Il en est de même de la pierre, il en est de même aussi du bois, dans des proportions intelligentes, parce que je peux vous dire qu'on va vers un désastre économique et écologique avec le bois qui vient d'aujourd'hui d'Autriche, notamment, dont on ne sait pas du tout quelle va être, on n'a pas de retour d'expérience sur son vieillissement dans le temps rapide, on ne sait pas. Je crois que la solution, c'est la proximité, un terme assez identitaire, peut-être assez poétique, mais la proximité. Voilà. Je crois qu'il faut arrêter d'exporter même son corps, vous voyez, de trop se déplacer. Voilà. Par exemple.
Sébastien Maire, il y a eu prononcé ce mot clé pour notre sujet, la climatisation. Quand est-ce qu'on interdit aux établissements publics, aux boutiques, de mettre la climatisation? Enfin, parfois, il fait 14 degrés, quoi, dans les boutiques à Paris. Elle est évidemment majeure, cette question de la climatisation, puisqu'on sait qu'elle rejette de la chaleur à l'extérieur.
La climatisation, c'est dramatique. La climatisation, c'est l'adaptation qui va arriver si on n'est pas capable de changer de paradigme, notamment sur la construction des bâtiments. Aujourd'hui, la RT, ce qu'on appelle la réglementation thermique 2012, elle tient pas compte du confort d'été, en tout cas pas suffisamment, ou elle tient compte du confort d'été pour les températures d'aujourd'hui, pas pour celles de dans 20 ans quand le bâtiment sera encore debout. Donc on fait des rénovations énergétiques, on construit des bâtiments avec un objectif unique dans son silo, le nombre de kilowattheures au mètre carré, mais sans tenir compte du fait que les habitants, spontanément, pendant ces périodes de chaleur, qui vont pas être juste un demi-mois par an, hein, mais qui vont commencer début juin et qui vont finir fin septembre, à moyen terme, hein, les habitants vont aller s'adapter tout seuls en achetant des climatiseurs qui vont brancher chez eux, et tous les efforts d'économie faits par la RT 2012 sur la consommation d'énergie vont être battus en brèche, parce que on n'aura pas tenu compte de ce confort d'été. Et on pourra pas empêcher les gens de s'adapter.
Au-delà de l'urbanisme, est-ce que c'est pas justement aussi à l'activité humaine de s'adapter? Le chômage vient du mot latin comare, qui à l'origine signifie le repos imposé par la chaleur, et de plus en plus dans certaines villes on parle de couvre-feu, ça c'est une idée qui sort comme ça, en temps de canicule. Est-ce qu'à la mairie de Paris vous en parlez?
Alors, de couvre-feu, non, mais d'adaptation des comportements, oui, tout à fait. La maire de Paris a publié une communication sur le rafraîchissement urbain au Conseil de Paris, là, il y a quelques semaines, qui évoquait certes tout ce que la ville de Paris propose sur l'aménagement, la construction, etc., pour rafraîchir la ville, mais aussi les usages. Et avec un exemple qu'on prend aussi du Japon, de Tokyo, qui s'appelle le Cool Biz. Vous savez qu'au Japon, il y a une démarche officielle des autorités et des dirigeants d'entreprise pour dire que pendant les canicules, les cadres sont autorisés à venir en short, en sandales, sans cravate, etc. Ça paraît anecdotique, mais c'est absolument majeur sur des questions de santé, puisque changer sa tenue vestimentaire peut vraiment avoir un impact sur la température corporelle pendant les canicules. Donc, et ça coûte rien à la collectivité. Hein. Des changements culturels vont aussi être nécessaires pour entrer dans la transition.
Vous, Michel Desvignes, vous avez aussi une vision holistique. Alors, vous êtes paysagiste et votre grande affaire à vous, ce sont les arbres, mais quand vous travaillez à Tokyo, vous êtes au courant des mesures qui sont prises par ailleurs, vous incitez vous avez l'impression que seul vous ne pourrez rien avec vos platanes et... Non, je ne sais pas si vous utilisez
Je reprendrai presque le... Rudy a commencé avec le terme de bon sens qui est assez bienvenu. Oui, je crois qu'on est des citoyens, enfin on connaît un peu ce qui se passe. Donc bien sûr qu'on se resitue dans l'ensemble de ces actions. Je crois que c'est très important dans tout ce qu'on a tenté de dire aujourd'hui, c'est la précision. C'est-à-dire, si notre rôle peut avoir un sens, c'est parce que nous sommes précis. Et qu'en effet, si ces transformations d'espace public se font telles qu'on les a décrites, avec précision, efficacement, etc., c'est déjà très bien. Je veux dire, je suis pas sûr que cette conscience générale que vous évoquez ait une quelconque répercussion.
Eh ben merci beaucoup en tout cas d'être venu le dire dans nos micros. Merci à vous trois d'avoir été avec nous. Rudy Ricciotti, vous étiez en ligne de Marseille et nous vous en remercions. Et je rappelle le titre de votre dernier essai, L'exil de la beauté aux éditions textuelles. Merci beaucoup et très bon été à vous. Sébastien Maire, merci à vous ainsi qu'à vous, Michel Desvignes. Et bonne journée. Et merci aussi à l'équipe du magazine du week-end, Chloé Rossignol, Hugo Boursier, Catherine Donnet, Benjamin Teinturier et Isée Sorel-Guérin. Cette émission était réalisée par Charlotte Roux. À la technique, c'était Alex Dang et Valentin Bobinet. Le week-end prochain, vous aurez le grand plaisir de retrouver Émilie Chaudet.